Bonjour, bonsoir, c'est le journal sur RFI. Il est 23h à Goma, minuit à Ankara.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité internationale, une semaine après l'offensive du M23 à Goma, le gouvernement de la RDC donne un bilan. 700 morts et 2800 blessés. Le G7, lui, condamne l'offensive du M23. La Turquie se dit prête à accueillir des prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Certains des prisonniers libérés sont exilés hors des territoires de Cisjordanie et de Gaza. Et puis le sport, pour terminer ce journal, 20e journée de Ligue 1, les résultats en fin de journal. Une semaine après l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à Goma, le gouvernement de la RDC a établi un bilan des combats, 773 morts et 2880 blessés enregistrés dans les hôpitaux de Goma, des chiffres supérieurs aux estimations de l'ONU. Dans un communiqué diffusé, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont, je cite, condamné fermement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement, je cite toujours, la prise de Minova, de Sake et de Goma, fin de citation. Goma, ville d'1 million d'habitants qui abritait presque autant de déplacés de guerre, une affirmation encore vraie il y a peu, mais voilà, ce week-end, certains sites de déplacés situés en périphérie de la capitale du Nord Kivu se sont vidés de leur population. C'est notamment le cas à Kanya-Ruchinya, au nord de Goma, où des camions ont été mis à la disposition de ceux qui avaient fui chez eux, le récit de Paul Lorgerie.
Selon des témoins qui ont visité ces sites, le silence a remplacé le brouhaha des activités quotidiennes. Les tentes ont disparu et seules les roches volcaniques qui en délimitaient les contours sont visibles. Au sol, quelques sachets plastiques et habits éparpillés témoignent du passage des personnes qui avaient fui les combats. Il y a encore quelques jours, des dizaines de milliers de masures s'entassaient dans les camps de Bouchagala et de Kanya-Ruchinya. 68 000 ménages, soit entre 300 et 400 000 personnes, y avaient trouvé refuge dans des conditions plus que précaires. Sur la route nationale 2 qui longe les deux sites, et monte vers le nord de la province, de nombreuses motos et des camions transportant des déplacés ont été aperçus. Un habitant nous a confié que, après l'arrivée du M23 et des soldats rwandais, la majorité des personnes déplacées ont regagné leur maison, probablement dans le territoire de Rutshuru. Une autre personne, qui s'était réfugiée sur un site de déplacés, nous a dit être encore hésitante. Sa maison détruite par des bombes, elle souhaiterait obtenir une aide pour sa reconstruction avant de pouvoir s'y réinstaller. Une situation qui, toujours selon des témoins, est également visible dans les sites situés à l'ouest de la ville. D'après certains déplacés, le M23 aurait mis à disposition quelques camions pour les personnes souhaitant volontairement retourner chez elles.
De l'autre côté de la frontière, le ministère des Affaires étrangères rwandais rejette pour sa part les accusations de la SADC, l'organisation régionale des pays d'Afrique australe, a dénoncé des attaques du groupe du M23 et de l'armée rwandaise contre les forces armées de la République démocratique du Congo, contre leurs alliés et contre les populations civiles au Nord Kivu. Faux, répond Kigali. Les FDR défendent les frontières du Rwanda. Elles n'attaquent pas les civils, dit Kigali, et qui salue cependant l'appel de la SADC à un sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est. 50 morts et 100 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans son opération Cisjordanie, qu'elle présente comme antiterroriste, opération lancée le 21 janvier, notamment à Jenin, ville du nord du territoire réputé bastion des groupes armés palestiniens. Pendant ce temps, la Turquie, elle, se dit prête à accueillir certains Palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. C'est ce qu'a affirmé dimanche le ministre turc des Affaires étrangères. Il n'a pas fourni de détails sur les conditions de cet accueil, mais il a rappelé le précédent du soldat israélien Gilad Shalit. Si sa libération en 2011, après plus de 5 ans de détention en territoire palestinien, s'était effectuée en échange de la libération par Israël de plus d'un millier de prisonniers palestiniens, dont certains avaient été accueillis en Turquie, à Nandlower.
Depuis le début, nous soutenons l'accord de cessez-le-feu. L'une des conditions de l'accord conclu entre les parties était que certains prisonniers palestiniens, après leur libération, ne restent pas en territoire palestinien, comme cela avait été le cas pour la libération de Gilad Shalit. À l'époque, on nous avait déjà demandé d'accueillir certains Palestiniens et nous avions accepté. Cette fois encore, notre président a déclaré que nous étions évidemment prêts, avec d'autres pays, à accueillir certains Palestiniens libérés afin de soutenir l'accord. La Turquie, avec d'autres pays, fera ce qui lui incombe à cet égard pour que l'accord de cessez-le-feu puisse être appliqué et rester en vigueur.
Des propos recueillis par notre correspondante à Ankara, Anand Lower. Au Liban, le Hezbollah va enfin enterrer son chef. Presque 5 mois après sa mort, la milice pro-Iran annonce des funérailles pour Hassan Nasrallah. Ce sera le 23 février. Charismatique leader du parti et groupe armé chiite, Nasrallah a été tué dans un important bombardement israélien à Beyrouth le 27 septembre dernier. Sa mort avait marqué la déroute du Hezbollah au Liban face à Israël. Quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump, une vaste purge est en préparation dans la police fédérale américaine. C'est ce qu'affirment de nombreux médias américains. Pendant ce temps, une course est lancée, celle au poste de patron du FBI. Le favori Kash Patel a promis au sénateur qu'il auditionnait il y a 3 jours de ne pas avoir d'ennemis et de ne pas chercher la vengeance. Mais pourtant, selon ces mêmes médias américains, plusieurs dizaines d'agents ayant enquêté contre Donald Trump pourrait être limogé. Les précisions de notre correspondante à New York, Karine Houghton.
L'évaluation serait en cours et la Maison-Blanche prévoirait de licencier plusieurs dizaines de policiers qui ont enquêté sur l'assaut du Capitole. Pour CNN, le choix a déjà été donné à au moins 6 hauts responsables du FBI de prendre leur retraite, démissionner ou être virés d'ici lundi demain. 20 chefs de bureau du FBI, dont ceux de Miami et Washington, seraient menacés aussi. Le Washington Post va plus loin et pense que potentiellement des centaines d'agents du FBI seront visés. Le quotidien rappelle qu'une trentaine de procureurs fédéraux ayant travaillé sur le même dossier ont déjà été limogés et le ministère de la Justice a renvoyé aussi cette semaine plusieurs fonctionnaires qui ont joué un rôle dans les poursuites contre Donald Trump. Cette purge au FBI et dans le secteur de la justice n'est pas sans inquiéter les démocrates quant à l'intégrité du futur bureau et du futur ministère. L'association des agents du FBI a condamné aussi cette épuration. Elle estime que cela affaiblira la sécurité nationale tout entière. Karine Houghton, New York, RFI.
La guerre commerciale de Donald Trump, elle, commence, et ça c'est officiel, l'Union européenne dit regretter ce dimanche la hausse de nouveaux droits de douane, plus 25% imposés par les États-Unis au Mexique et au Canada. L'UE, qui se dit persuadée que ces droits vont ralentir la croissance mondiale, et prévient, Bruxelles répliquera si une même offensive commerciale est lancée contre l'Union européenne. Donald Trump, qui a reconnu aujourd'hui pour la première fois que cette politique de guerre commerciale pourrait, je cite, faire souffrir les Américains, ou peut-être pas, a-t-il écrit, prix à payer, selon lui, pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Fin de citation. En Nouvelle-Zélande, après des années de négociations, une loi accorde à la montagne, à une montagne, le statut de personne morale, c'est-à-dire qu'elle a désormais un statut juridique. Une décision prise pour indemniser le peuple maori pour les injustices qui leur ont été infligées pendant la colonisation et la confiscation de leurs terres. Igor Strauss.
Ne l'appelez plus Mont d'Egmont, un nom donné par l'explorateur britannique James Cook au XVIIIe siècle, mais Taranaki Monga ou Mont Taranaki, un nouveau nom, des droits similaires à ceux d'une personne et la protection de ses sommets, voilà en partie ce que propose la loi adoptée par le Parlement néo-zélandais jeudi dernier. Elle reconnaît également la vision du monde maori selon laquelle les montagnes sont des êtres vivants. L'adoption de cette loi a également été accompagnée d'excuses du gouvernement pour la confiscation du Mont Taranaki et de terres appartenant aux Maoris dans les années 1860. Nous devons reconnaître les blessures causées par des torts passés et aider les peuples autochtones à réaliser leurs propres aspirations, a déclaré Paul Goldsmith, le ministre responsable des négociations. L'accès à la montagne ne changera pas et tous les Néo-Zélandais pourront continuer à la parcourir. Le mont Taranaki n'est pas le premier élément naturel de Nouvelle-Zélande à obtenir ce statut moral. En 2014, la forêt indigène d'Urewera est devenue la première à l'obtenir, suivie de la rivière rivière Ouangani en 2017.
Igor Strauss, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Nous, on se retrouve dans moins d'une heure pour un tour de l'actualité 100% française cette fois-ci.